J'écrirai des soleils, émission littéraire, sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents, proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois beaux livres. On va commencer par Arbre, tous les savoirs, toutes les histoires, tous les pouvoirs, tous les espoirs de Serge Chal, édition Plume de Carotte et Terre Vivante. Un très beau livre. Après, nous poursuivrons avec Minuit dans la ville des songes de René Frény, édition Gallimard. Magnifique roman aussi. Et on finira par le guide de Terre Vivante de la gémothérapie. 57 bourgeons pour se soigner au quotidien et 600 remèdes pour toute la famille. Édition Terre Vivante. Nous allons commencer avec Arbre de Serge Chal. C'est un très beau livre de l'édition Plume de Carotte et Terre Vivante. C'est un grand livre cartonné, format un peu plus grand que A4, avec plus de 300 pages, et hyper intéressant. Il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup de contenu. C'est comme un monument, c'est vraiment très intéressant à lire pour ceux qui s'intéressent à l'arbre. Mais c'est source d'espoir, d'histoire, mais aussi de savoir ou de pouvoir. L'arbre nous rappelle son rôle primordial pour notre survie. Le livre est une encyclopédie au sujet des arbres, un régal pour les yeux, mais aussi pour répondre à de nombreuses questions qui peuvent nous questionner. À tous les curieux, les savants, les forestiers, les historiens, les explorateurs, les activistes. Ce beau livre intemporel et foisonnant vous amène dans le monde des arbres. Sous tous leurs aspects et toutes les richesses, un livre à parcourir au fil de ses récits et ses illustrations, pour se rapprocher un peu plus de ces fascinants géants, de la pointe de leurs racines à l'extrémité de leurs branches. Tous les savoirs, origine, biologie, botanique, diversité, génétique, curiosité, record. Toutes les histoires, civilisations, légendes, cultures, politiques, inventions, explorations. Tous les pouvoirs, bienfaits, gestion, beauté, usage, exploitation et construction. Tous les espoirs, économie, spéculation, enjeux, engagement, préservation et sauvegarde. C'est un livre très complet. Il y a aussi des chansons comme La belle écriture de Brassens auprès de mon arbre, que vous connaissez sûrement. Les photos sont magnifiques. On sentirait presque les feuilles d'automne allongées sous la brume. Je vais vous lire maintenant des extraits de ce très beau livre. La vie d'un arbre. La vie au grand air, la photosynthèse. Les feuilles absorbent le gaz carbonique, l'atmosphérique, et grâce à l'énergie solaire, le transforment en glucides et relâchent de l'oxygène. En hiver, les arbres à feuillage caduc perdent leurs feuilles. Chez les persistants, une feuille demeure sur l'arbre un certain temps, 2 voire 3 ans. Et comme le feuillage est renouvelé en continu, l'arbre semble conserver toujours le même. C'est un puits de carbone. L'arbre transforme le CO2 en matière vivante. On l'assimile à un puits de carbone capable de fixer et de stocker cet élément. Un grand chêne de 40 mètres, poussant sur un tronc de 60 cm de diamètre, peut stocker entre 5 et 7 tonnes de CO2 par an. La fructification des arbres forestiers est un élément important de la fixation du carbone. La production de masse de faîne certaines années, chez le hêtre, représentant en moyenne 42% de la production annuelle de bois. L'eau, elle est constituée des tissus de l'arbre. Elle renferme et véhicule également les éléments minéraux nutritifs distribués dans toute la plante. L'eau est relâchée dans l'atmosphère, les stomates, de petites ouvertures réglables à la surface des feuilles par lesquelles se font les échanges gazeux. La respiration au niveau du sol. Une partie du carbone est transportée depuis les feuilles jusqu'aux racines et libérée dans le sol sous la forme de CO2. La litière, en se décomposant, alimente le sol en éléments minéraux absorbés par les racines et redistribue dans tout l'arbre. Les micro-organismes. Macro et micro-organismes se chargent de décomposer la matière organique en éléments minéraux. L'arbre est capable d'utiliser les nutriments seulement sous cette forme. D'abord, il y a l'écorce, après le libère, le cambium, l'aubier, le duramen. Et vous avez des petits schémas qui expliquent tout ça. La reproduction, la graine. La durée de vie d'une graine est très variable. De quelques années pour les arbres dans les régions tempérées, chez les essences tropicales, la germination est immédiate, dans la saison. Le temps de latence peut être nul, comme chez le palétuvier qui préfère germer sur l'arbre avant de laisser tomber ses fruits dans la vase. Pour germer, les graines des essences tempérées doivent subir le passage du froid. Pendant un temps variable de quelques semaines à quelques mois, selon les espèces, c'est la vernalisation. Le plan. La vitesse de croissance des arbres est lente. Les plus rapides poussent de 60 cm par an. La fructification. La mise à fruit est tardive. Un chêne produit ses premiers glands entre 20 et 50 ans. La pollinisation des arbres forestières se fait par l'action du vent. Les productions de fruits sont très variables. Les années de forte fructification de masse ou masting restent inexpliquées. En automne, les glands tombent de l'arbre. Après, il y a l'hiver, le froid. Le gland commence à germer au printemps. Les feuilles et les racines poussent au bout de 4 à 5 ans. Le jeune chêne mesure près de 2 mètres. Ça, c'est au bout de 4 à 5 ans. Voilà, ils expliquent tout le procédé. Il y a plein de schémas très précis qui parlent de l'eau, de l'oxygène, de l'azote, du phosphore, du potassium, du magnésium, du carbone, dioxyde, tout ça qui est véhiculé dans l'arbre. Voilà. Mais à quoi sert l'arbre isolé? Lorsqu'on passe en train, devant les grands pâturages ou qu'on les longe, durant des promenades, on voit bien les vaches heureuses de se coucher à l'ombre de quelques arbres perdus ici et là, ou les chèvres comme chez nous. À part ça, on est bien en peine de faire un court inventaire des avantages des arbres isolés. Ils sont pourtant indispensables à bien des égards. L'arbre ralentit la vitesse de circulation de l'eau et favorise son infiltration dans le sol. En limitant le ruissellement de l'eau, il diminue l'érosion du sol. Moins de ruissellement, c'est moins de terre apportée dans les rivières. La qualité de l'eau s'en trouve améliorée. La présence de l'arbre limite l'évapotranspiration, d'autant plus que la plantation est dense et bosquée. Plante en bordure de rivière, la ripisylve arrête une partie des polluants venus des surfaces cultivées. De plus, elle stabilise les berges. Les feuilles tombées au sol constituent une litière de choix en se décomposant. C'est une façon indirecte de puiser en profondeur les éléments minéraux pour les restituer en surface. Bosquets, fourrés, taillis, bocages sont autant de refuges pour les animaux. Ils sont également source de fruits, de bois, de pollen pour les insectes et constituent des corridors de biodiversité. Enfin, les arbres champêtres participent aussi à la beauté des paysages, servent à la délimitation et en rôle social, pêche, cueillette, chasse, dégâts du remembrement. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la préoccupation de nos prédécesseurs était de manger. Ça peut paraître trivial dans nos sociétés d'abondance, la reconquête alimentaire passe alors par la mécanisation de l'agriculture, qui a besoin de grands espaces pour s'exprimer. Dans les campagnes, l'arbre devient encombrant, toujours un vieux pommier au milieu d'un verger peu productif qui se met à travers du progrès. Un sol têtard, moche en plus de ça, le remembrement va se charger de les éliminer. Il faut attendre les années 70 pour comprendre quoi. Pour prendre conscience de l'importance de l'arbre isolé et les années 1980 pour avoir enfin les premières replantations alors que la disparition des arbres champêtres continuait toutefois. En France, entre 1975 et 1985, 43% des mètres linéaires de haies champêtres ont disparu. Entre 1982 et 1998, 37% des surfaces de prés, vergers également. Le sujet est donc toujours d'actualité, avec la replantation des haies, des talus et des reconstitutions de bocages, qui sont subventionnées aujourd'hui. L'arbre isolé, arbre unique, planté en bordure de champs, en limite de propriété ou au milieu des parcelles. Complan, c'est une association de parcelles cultivées, le plus souvent de pâtures et d'arbres distancés. La production est doublée, celle des cultures et celle des arbres fruitiers, et plus souvent on parle alors de pré-vergers. Les haies brise-vent, plantées de grands arbres, elles servent à réduire les vents, de moitié environ. Elles restent perméables et nécessitent d'être élaguées périodiquement et d'atteindre une largeur optimale de 8 mètres. Elles caractérisent les néobocages des aménagements récents, du 19e siècle au 20e siècle. La ripisylve, c'est un ensemble d'arbustes et d'arbres plantés en bordure de cours d'eau, dont il épouse les contours. Il empêche l'érosion des rives et sert de lieu à de nombreux animaux. Le bosquet, petit boisement, dont la surface est inférieure à un demi-hectare, au-delà, on parle de bois ou de forêt. Il est constitué d'essence locale. La haie champêtre, son premier rôle est de servir de culture et de délimitation, d'empêcher les animaux domestiques de s'échapper. Elle est aussi domestique. Elle est aussi source de petits bois de cueillette. Elle réclame de l'entretien pour ne pas déborder sur les champs. Elle est typique du bocage traditionnel, constitué d'une maillage et de la surface des haies. Voilà, donc là c'était des leçons des choses, c'était le chapitre leçons des choses sur l'arbre isolé pour voir quand même que même s'il est isolé, il a une importance cruciale. Voilà, et maintenant on va partir un petit peu dans la vie des arbres, parce que la vie L'arbre a fait habiter beaucoup d'espèces, notamment la chauve-souris, le lairot, l'écureuil que vous connaissez bien, la mésange. Voilà, donc ils habitent un trou perdu. Le lairot. Les lairots sont fatigués, surtout lorsqu'ils rentrent au petit matin avec des airs de bandits masqués, tellement fatigués et repus de fruits, de graines et d'insectes, qu'ils ne mettent pas longtemps après avoir regagné leur trou à s'endormir. Pendant tout l'hiver, c'est un sommeil profond de plusieurs mois. La chauve-souris, que vous connaissez bien. La France en abrite 36 espèces, un record européen. En deux battements, d'ailes de chauve-souris gagnent le trou présent dans un arbre vivant. Il offre une meilleure isolation thermique. Il y a des nuits comme ça où tout vous réussit. L'écureuil. L'écureuil roux apprécie les forêts de résineux, dont les pignes lui assurent une alimentation nourrissante toute l'année. Le pin, c'est pour contrer les courroux de la toux. Des roux, se dit-il, tout en amassant des glands pour l'hiver, car il est aussi à son aise chez les feuillus. Voilà un bon placement, pense-t-il. La mésange bleue, toutes les mésanges sont cavernicoles, mais la bleue a une préférence pour les petits trous. Elle le choisit petit, de 25 mm de diamètre, trop petit pour ses concurrentes, la mésange charbonnière et la mésange à tête noire. Quand il y en a pour un, il y en a pour un. C'est sa devise. La chevêche d'Athéna. Hibou, chouette, hulotte, toute la famille l'apprécie. Les trous d'arbres, la chouette chevêche ou d'Athéna, une des plus petites chouettes, ne vit pas dans les forêts, mais en plaine lorsqu'elle repère un arbre isolé, muni d'un trou accueillant. La chouette se dit chic, malgré son nom latin, elle est essentiellement diurne et chasse au crépuscule des gros insectes, des rongeurs, des petits oiseaux, les invertébrés. La sittelle torche-peau. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez à chaque fois la photo de l'animal, de l'écureuil, de la sittelle. Comme ça, il faut bien identifier la sittelle. Il y en a beaucoup dans notre région et c'est très joli. C'est un petit peu bleu-gris avec un peu de blanc sur le ventre, blanc ocre. Sittelle torche-peau. Question ouverture du trou, elle fait comme la mésange, mais elle est proactive. Comme on ne dit pas dans la forêt, elle maçonne l'orifice d'un ancien trou pour l'adapter à sa taille. Adieu concurrents ou prédateurs. Il y a la martre, il y en a encore plein d'autres. Voilà, ça c'est important de savoir que aussi dans les forêts il y a de la vie. Et après il y a tout un côté l'exploitation du coup du bois, notamment pour faire des charpentes. Donc du coup on va partir sur ce volet-là. Il y a des très très belles photos, notamment la structure du pavillon de studio de Gang du Lincoln Park de Chicago. C'est torsadé, c'est du bois torsadé très joli. Là il y a des énormes photos de partout. Où on voit la création qu'on peut faire avec du bois, c'est assez magnifique. Voilà. Et on va partir du coup sur Notre-Dame de Paris que vous connaissez très bien. Voilà, c'est les enjeux et il y a tout un volet historique aussi. Donc du coup, on va partir sur un fait de société que vous connaissez, qui est ce flambant monument qui a pris feu. Le 15 avril 2019, 18h20, chaîne d'infos en continu. Un œil sur un bourgeon de fumée. Les premières flammes. Souvenir d'école, Victor Hugo, notre patrimoine. On a fait un don. C'est tout ce qu'on pouvait faire. Notre-Dame de Paris, dira-t-on désemparé, doit renaître. Un petit tour en forêt. C'est un entrelacs que de poutres. C'est une charpente imposante. Que dis-je d'une charpente? C'est une forêt. Car c'est ainsi qu'on nomme l'imposante construction datant du XIIIe siècle. Cette charpente, partie en fumée, était une des plus anciennes de Paris. Seule celle de Saint-Pierre de Montmartre est une partie de celle de Saint-Germain-des-Prés, sans antérieure. Elle était faite du bois de 1300 arbres. On comprend mieux son appellation de forêt. Ses dimensions impressionnantes nous rappellent l'ampleur du chantier, en cours et à venir pour sa reconstruction. 100 mètres de longueur, 13 mètres de large, 40 mètres dans le transept, et 10 mètres de hauteur, un monument à elle seule. Un grand tour en forêt, 1300 chênes nécessitent à la charpente et à la flèche, finalement construites à l'identique, proviennent de toute la France. Tout le monde veut participer, et si l'Office national des forêts s'est engagé à fournir 325 chênes, un tour de France s'est engagé pour répondre à la demande. Les abattages se font dans les forêts publiques comme privées. Voilà, on sait que du coup, la reconstruction se fait avec plein de chênes de partout. Ça évite de déboiser des forêts entières pour faire des constructions. C'est mieux de faire un prélèvement partiel sur plusieurs forêts. C'est pertinent. On a aussi des cartes, des très belles cartes que vous voyez à l'ancienne qu'on avait dans les écoles et qui dit toutes les productions diverses agricoles sur c'est les productions fruitières. Voilà, c'est par Albert Bernard, instituteur officier de l'instruction publique. Voilà, donc c'est très joli, je ne vais pas vous lire parce qu'il y a énormément de productions comme l'abricot, la pêche, la noix sur le plateau central, la châtaigne. C'était l'Auvergne, du coup, le plateau central. Voilà, le sud-ouest, plus connu pour ses poires, ses prunes, ses cerises, ses amandes, ses pêches, voilà. Donc notre région, le sud-est, l'amande, la prune, le citron, la figue, l'orange. Voilà, il n'y en a plus trop quand même, les oranges, mais c'est plus la Corse. Voilà, donc ça c'est pour les arbres fruitiers. Il y a tout un volet sur les arbres fruitiers. Donc on a parlé un peu d'histoire aussi. Il y a aussi des histoires qui font peur. Donc on va poursuivre avec une histoire, la forêt qui fait peur. Pour paraphraser Pierre Dac, mieux vaut s'enfoncer dans une forêt sombre qu'un clou dans la fesse droite. Et pourtant, on a tous une petite réticence sans doute, portée par une réminiscence venue du fond de l'enfance à l'idée de pénétrer dans un bois soudain perçu comme hostile. L'arbre et la forêt. La matière symbolique en fera l'usage qu'on veut des symboles. L'arbre est viril et la forêt féminine. L'arbre est vertical, il pousse vers le haut, la forêt est horizontale. Elle veille à l'écartement des arbres entre eux, ils se complètent. La forêt symbolise la mère primitive. Dès lors, pourquoi nous inquiète-t-elle? On pourrait la penser protectrice bienveillante. C'est qu'elle symbolise dans le même temps la femme dans tout son mystère. Une dualité difficile à admettre. Le fameux continent noir, selon Freud, la terre incognita trouve dans les... On ne sort pas des habitants mythiques de la forêt. La beauté et la quiétude apparente de la forêt sont évidentes. Pourtant, certains l'aperçoivent comme oppressante, étouffante, inquiétante. Elle est trop étendue, pauvre en repères, pour qui ne sait pas la lire, sauvage par nature, sombre et trop ombrée. On y devine la présence des animaux, sans les voir, sauf très rarement. Cette oppression dans une forêt dégoulinante d'humidité est encore plus prégnante dans la forêt tropicale. Inutile de rappeler tous les films, les livres, les récits l'ayant choisi pour cadre. Alors oui, on ne va pas aimer la forêt. J'en connais même qui la détestent et lui préfèrent les vastes étendues de la mer ou de l'océan, et même les déserts. Mais que vois-je? Une belle clairière? Une trouée de lumière dans ce livre qui annonce un nouveau thème? Il est temps, ça devient étouffant. Voilà, ça c'est par rapport au volet de la culture, l'arbre qui fait peur. Il peut être une source d'aspiration, notamment pour nous et pour les paysans. Et pour d'autres, du coup, ça peut être une inquiétude. Voilà, donc ça dépend de l'approche qu'on en a. Mais voilà, du coup, ça mêle l'histoire, la culture, les usages, mais aussi comment fonctionnent les forêts. Et voilà, c'est un livre très beau que je vous invite à vous procurer rapidement parce que c'est un peu faire un beau cadeau pour Noël ou pour faire un beau cadeau pour mieux comprendre les arbres, leur fonctionnement, leur histoire et leurs espoirs. C'était Arbre de Serge Chal, édition Terre Vivante et Plume de Carotte. Comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futées. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter. René Frény, Minuit dans la ville des songes, édition Gallimard. Il y a des romans comme celui-ci qu'on ne peut plus lâcher. On commence à le lire et on ne peut plus s'arrêter. Et on est traversé par une irrésistible sensation de profondeur. On est happé par l'histoire et la vie si incroyable sans l'auteur. On ne sait si c'est une fiction ou une réalité, mais en tout cas, ce livre est une très belle histoire. Et un coup de poing qui agite dans nos entrailles. Ce livre, vous l'aurez compris, est un chef-d'œuvre que je vous invite à lire. Bravo à René Frény pour ce très beau roman. Il se hisse dans les auteurs incontournables de notre époque, à lire et à relire. Je le comparerai même à Victor Hugo ou Jean Giono dans ce livre, car il est passionnant. Je vais vous lire des extraits pour que vous puissiez vraiment vous plonger dans le livre et vous invite à vous le procurer avant qu'il soit en rupture de stock, si ce n'est pas déjà le cas. Durant ces quelques mois, nous parlions de tout, de sa jeunesse, un peu triste des privations de la guerre. Elle aurait adoré avoir 17 ans, aujourd'hui, et faire de longues études dans une petite ville de parcs et de fontaines, une ville de mots, d'insouciance et de lumière. Elle devait penser à Aix-en-Provence, où jour et nuit, une jeunesse libre et bruyante coule dans les rues, pas comme notre grande ville de dépravation et de crime, qui a failli m'anéantir. Jamais je n'avais autant parlé avec ma mère. Je lui racontais mes amours, le parfum des filles, quelques petites bêtises que j'édulcorais. Je lui ai appris à danser dans la cuisine, le bebop et le Madison. Elle pirouettait en riant aux éclats sous son tablier ruisselant de lessive. J'étais le frère qu'elle avait adoré puis perdu, celui qui s'était pendu à l'issue d'une grève. Elle écoutait, en travaillant, tous mes 45 tours sur le petit Épaz. Ses préférés étaient ceux de Françoise Hardy, d'Adamo et de Richard Anthony. Elle était très romantique et rêvait d'amour qu'elle ne connaîtrait jamais. Elle ne mettait plus d'ail dans la salade lorsque j'allais danser. L'après-midi, je basculais à un petit flipper dans l'arrière-salle du bar Terminus, où j'allais faire un tour en ville, souvent seule à présent. Le printemps s'installe dans les rues, par petits bourgeons tendres et robes claires. Le vieux port était un long bassin d'or liquide, sous les murailles blondes du Fort Saint-Jean. C'est ainsi qu'en flânant, j'achetais le premier livre de ma vie, chez un bouquiniste du cours Julien. Une biographie de Lucky Luciano, émigré sicilien, qui allait devenir le plus célèbre gangster d'Amérique. Je commençais le récit en regagnant notre banlieue, dans le bus numéro 5. Tard dans la nuit, il était encore ouvert dans mes mains. Jamais à l'école, on ne m'avait proposé un tel livre, et pour cause, le petit Lucky préférait la rue à l'école, comme moi. Ma mère n'en croyait pas ses yeux. Elle me laissa dans la cuisine, son sourire était radieux. Je portais des lunettes, je lisais, un miracle s'était produit. J'adorais la première rencontre de Luciano avec Meyer Lansky, puis Al Capone et Frank Costello. Tous ces noms claquaient comme des drapeaux sur le quai de Marseille, comme les mots prostitution, raquette ou alcool. Luc le chanceux, laissé pour mort, dans un règlement de compte, la gorge tranchée. Il avait survécu. Pendant 3 jours, je ne lâcherai pas ce livre, dont l'auteur absolument inconnu supplantait pour moi tous les Balzac. Miraculé, Lucky parvenait à fédérer les gangs italiens, juifs et irlandais contre la vie des vieux mafiosos. Puis faisait éliminer son chef, Maranzano. Une série d'assassinats suivèrent la nuit des vêpres siciliennes. Intelligent, brillant, sans pitié, avide de pouvoir, Lucky Luciano allait atteindre le sommet. Plus aucun gangster après lui ne connaîtrait un tel pouvoir. J'étais fasciné. Arrêté enfin pour proxénétisme et incarcéré à Sing Sing, il devient le bibliothécaire de la prison où il gère son empire. Libéré après 9 ans d'incarcération sur les 30 qu'il devait purger, il regagna la Sicile. Le dernier chapitre du livre me captiva. Il relatait les liens que Lucky Luciano avait tissés avec la vêpre et marseillaise, Antoine Guérini et Étienne Léandri, des noms plus célèbres que celui de notre maire ou du Premier ministre, et qui étaient ici sur toutes les lèvres, dans la moindre ruelle et bistrot de la ville, et que l'on prononçait avec respect, en baissant la voix. C'étaient les premiers réseaux secrets de la French Connection. Ce livre amoral me passionna, il était violent, mystérieux, implacable. J'aurais aimé me lancer dans une carrière de voyou, vivre dans les boîtes de nuit, être accompagné des plus belles femmes, me réveiller tard dans l'une des somptueuses villas qui dominent le port de Cassis face au Cap Canaille pourpre. Je deviendrais un homme craint, respecté, ma mère mourrait de chagrin. J'étais loin de me douter qu'un jour, j'irais dans les prisons, animer des ateliers d'écriture dans lesquels je rencontrerais les nouveaux parrains de Marseille, que je me lierais d'amitié avec certains d'entre eux et que j'écrirais des romans noirs, en les écoutant me raconter leur stupéfiante vie. Pour ne pas être un énorme boulet pour ma famille, qui avait bien du mal à joindre les deux bouts, j'allais me faire embaucher 3 jours par-ci, 3 jours par-là. On réparait alors le canal qui alimente la ville et va se tordre dans les banlieues et les plus lointaines. Je poussais sur des rails des wagonnets remplis de mortiers. Je les déversais dans les canals que l'on avait vidés et que ravaudaient des équipes de tâcherons. Personne n'était déclaré et ça arrangeait tout le monde. Parfois, je descendais d'un 5e étage sur mon dos des tonnes de gravats. On rénovait de vastes appartements sur les boulevards, abattant des cloisons pour faire entrer la lumière. Je me faisais des épaules, des mollets et de l'argent de poche. Entre 2 petits chantiers au noir, je bricolais sans conviction, mes devoirs par correspondance sur la table de la cuisine. Lucky Luciano avait-il pensé, un instant, entrer dans la poste ou au chemin de fer? Déjà là, dans cet extrait, on voit l'ambiance et l'intérêt du jeune auteur là pour toute une bande de mafiosos. Il faut savoir aussi qu'il a arrêté très tôt l'école. Et que l'école, ça a été très compliqué pour lui. Pourtant, c'est devenu un très grand auteur. C'est intéressant. Je vais vous lire maintenant sa vie au cachot. Parce qu'il va quand même vivre de la prison. « Je ne quitterai Almeria que lorsqu'il ne resta plus au fond de ma poche que quelques pesetas. Je repris une route qui menait vers le froid de la caserne. Les chauffeurs qui me ramassaient étaient parfois bavards. Certains m'invitaient à partager le plat du jour dans un routier, ou simplement sur une aire d'autoroute, et qu'ils avaient dans un panier. Quand le chauffeur n'était ni bavard ni généreux, j'entrais dans une supérette et glissais dans mon blouson quelques pavés de biscuits, tubes de Nestlé, tablettes de chocolat. Je travaillais 15 jours à Limoges, dans un bistrot des Halles. J'avais besoin de douche et de repas chauds. Autour de la gare, les hôtels étaient bien chauffés, les petits déjeuners copieux. Je repartis quelques billets en poche, j'avais l'intention de visiter Paris avant de découvrir la Meuse, et les joies de l'infanterie motorisée. J'avais la vie de devant moi, une insouciance indestructible. Je franchis la barrière blanche de cette caserne bronzée, débraillée, hirsute, avec quelques semaines de retard. S'il avait reçu un courrier comme quoi il devait aller faire son service militaire. La sentinelle appela l'officier de permanence, à qui je tendis la convocation froissée que ma mère m'avait envoyée à Almeria. Il me scruta des pieds à la tête, son visage se durcit. Il me demanda avec arrogance d'entrer dans le poste de garde. Téléphona sans doute à son supérieur, car sa voix devient très respectueuse. Il raccrocha et m'ordonna sèchement de retirer ma ceinture, les lacets de mes chaussures, ainsi que chaîne et montre, si j'en avais. Il décrocha des clés à un tableau et encadrait les deux troufions en armes. Je le suivis vers un bâtiment entouré de hauts murs, les locaux disciplinaires. Je n'avais même pas eu le droit de prendre mon sac à marin. Nous franchîmes une lourde porte de bois, un couloir, une autre porte, tout aussi épaisse. Une cour surmontée de serpentins de fil de fer barbelés. Une minute plus tard, un verrou claqua. J'étais bouclé à double tour dans une cellule de 3 mètres sur 2. J'avais 19 ans. Une autre vie allait commencer. Voilà. Donc là, on voit qu'il a été emprisonné parce qu'il arrivait trop tard. Enfin, il avait été convoqué, il n'est pas arrivé à temps de Almeria où il était. Et donc, du coup, carrément, ils le mettent en tôle, quoi. Parce qu'il avait du retard. Il était considéré peut-être comme déserteur. Voilà, tout le long, après, on a aussi ses relations avec la prison et la répression, qui est très forte. C'est clairement un livre antimilitariste. C'est ça qui est bien aussi. C'est, voilà. Je vous lis encore un événement qui s'est passé quand il était à la prison. Le colonel annula toutes les activités du jour pour une revue immédiate et générale des pactages. 1800 hommes dégringolèrent dans la cour avec tout leur barda et se mirent au garde-à-vous. Un tel événement ne s'était sans doute jamais produit. Un branle-bas de combat, aussi absurde que soudain, durant toute la matinée. Tous les gradés vérifiaient en aboyant chaque pactage. Le soldat, à qui il manquait un seul tricot de corps, sortait des rangs. Chacun de nous en avait reçu 3 lors de l'incorporation. À midi, 160 troufions se trouvèrent bouclés aux arrêts, entassés dans les 30 cellules de 6 mètres carrés. Je faisais partie du troupeau. À 6 heures du soir, les cris commencèrent. 3 heures plus tard, dès l'extinction des feux, les tabourets s'abattirent contre les portes. Durant une partie de la nuit, tous les pauvres airs, qui ne comprenaient pas que l'on puisse les enfermer pour un banal morceau de coton égaré, démolirent tout ce qui pouvait l'être. À 3 heures du matin, les premières portes de cellules cédèrent. Le jour n'était pas levé. Lorsque les 160 mutins furent relâchés dans un immense hurlement de victoire, le colonel devait bien se tenir quelque part. Personne ne le vit. Il faudrait 1 à 2 semaines pour remettre en état les locaux disciplinaires dévastés. Voilà. Bon, il ne faut pas que je vous lise tout le livre parce que sinon vous ne voudrez plus forcément le lire, que vous connaisserez toute l'intrigue et tout ça. Mais en tout cas, je pense que c'est hyper intéressant de le lire. Ça ouvre l'esprit et c'est une très belle histoire. Je vais finir juste avec une relation qu'il a eue avec un ami à lui, c'est dans la fin du livre. Nous étions devenus, Pierrot et moi, aussi malins et doués que les gitans pour découper, brûler et revendre le cuivre. Habitués à nous voir revenir chaque semaine, le ferrailleur ne tentait plus de nous gruger sur le poids. Nous abandonnions souvent, au bord des routes, une partie du métal précieux. La 404 rendait l'âme sous des chargements qui n'étaient plus de son âge. Nous empruntâmes une nuit un fourgon, Renault, le seul à cette époque qui démarrait sans clé. Il suffisait de tourner un bouton. On fit un peu jouer l'une des vitres latérales et hop, dès lors, nous multipliâmes par 4 ou 5 nos prélèvements et nos revenus. Entre 2 sorties nocturnes, nous dissimulions notre fourgon dans la grange d'une ferme abandonnée depuis des années. Entre mon travail d'écrivain public aux 2 guitares et mes nuits de gitan, je pus reconstituer une petite bibliothèque de livres de poche et manger à ma faim. Voilà, il était passionné de livres. Voilà, je vous conseille vraiment ce bouquin qui est très beau. Je pense qu'il est assez autobiographique, mais j'en ai pas la certitude non plus. C'est peut-être de la fiction. En tout cas, il y a beaucoup d'intrigues, beaucoup de mouvements. L'écriture est très fluide et très belle. Voilà, je vous invite vivement à lire ce très beau livre. « Mes nuits dans la ville des songes » de René Frény, qui habite pas loin d'ailleurs à Manosque, édition Gallimard. Et dedans,
comme un matelot, une fille qui tangue, un air anglais. C'est extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir, et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir, et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra, c'est extra.
Le guide Terre Vivante de la Gémothérapie, docteur Claudine Lu. 57 bourgeons pour se soigner au quotidien. 600 remèdes pour toute la famille. Édition Terre Vivante. Voilà, c'est un livre qu'on attendait parce que la gémothérapie, il n'y a pas tout le monde qui connaît, mais c'est un soin très subtil et qui travaille notamment au niveau psychologique. La macération de bourgeons. Voilà, il y a plusieurs méthodes de macération, donc on va lire les extraits. La gémothérapie est un soin subtil et délicat, mais qui a fait des preuves depuis de longues années. C'est un soin avec les bourgeons des arbres, dans de l'alcoolature, et à utiliser avec parcimonie, même si ce n'est pas très fort. Dans le bourgeon, il y a souvent la promesse d'un fruit, donc c'est un concentré de vitalité. On peut soigner de nombreux maux, allant du psychologique au physique. Ce livre est très complet sur le sujet, est richement illustré, de plus de 57 bourgeons. La couverture du livre, semi-souple, est à la fois rigide, très malléable, et de beaux dessins de bourgeons le couvrent. Plus de 600 remèdes sont proposés pour tous. Découvrez les macérats de bourgeons ou de jeunes pousses d'arbres et d'arbustes. Ils constituent des soins très simples, sans effets secondaires, ni toxicité pour toute la famille. Permettent d'apporter de nombreuses solutions pour traiter les petits maux du quotidien, renforcer son immunité, entretenir la jeunesse des tissus. Ces trésors de la nature sont mis à la portée de tous dans cette véritable encyclopédie, à la fois belle et pratique, rédigée par l'une des meilleures expertes sur le sujet. Qui est l'experte? Claudine Lu est docteur en pharmacie et docteur sciences naturelles, enseignante et conférencière, spécialiste des plantes médicinales. Elle a publié de nombreux ouvrages dans ce domaine. Elle a aussi fondé avec son mari, Wien Lu Linderplam, l'Institut méditerranéen de documentation, d'enseignement et de recherche sur les plantes médicinales. Cette école phare de la phytothérapie accueille des étudiants venus de toute l'Europe. Claudine Lu est également la fondatrice du laboratoire PhytoFrance, Eurosanté Diffusion, installé près de Montpellier, aujourd'hui dirigé par l'un de ses fils. Il propose de nombreux produits élaborés principalement à partir de la plante fraîche. La photographe, formée à l'école de l'image des Gobelins, Virginie Kéan, photographie les plants et les jardins depuis plus de 20 ans. Elle met également en scène ses compositions dans son propre jardin qu'elle cultive avec passion. Fleurs, fruits, légumes, arbres, arbustes et bourgeons. Le règne végétal est pour elle une inépuisable ressource d'inspiration et de respiration. Avec des explications très simples pour préparer soi-même ses macérats à partir de ses propres cueillettes, l'ensemble des macérats utilisés existe toutefois dans le commerce en alternative. Les 57 arbres et arbustes couramment utilisés en gémothérapie sont présentés par ordre alphabétique, avec un descriptif de leurs principales vertus. Plus de 600 remèdes pour traiter naturellement les problèmes de peau, les problèmes de la sphère ORL, les systèmes cardiovasculaires et nerveux, mais aussi la fatigue, le stress, accompagner la vieillesse. Un focus sur les âges de vie, avec les bourgeons les plus adaptés à des thèmes précis. Par exemple la ménopause, l'andropause, entrée dans la vieillesse, mais aussi un hymne à la nature et aux joies de la cueillette, dans le respect de l'environnement, avec de sublimes photographies réalisées spécialement pour cet ouvrage par Virginie Kéan, pour le plaisir des yeux et une reconnaissance facile des bourgeons. Un livre de transmission de savoir destiné aussi bien au grand public qu'aux professionnels de santé, pharmaciens, médecins et phytothérapeutes. Maintenant je vais vous lire des pages de ce très beau livre. On va commencer par l'introduction pour comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est la gémothérapie. De quoi s'agit-il ? La gémothérapie est un domaine de la phytothérapie qui a rendu de grands services à l'humanité depuis la nuit des temps. Bien qu'avant que le terme n'existe, elle consistait en l'utilisation à des fins thérapeutiques de bourgeons, pousses et radicelles de certains arbres et arbustes. Ces végétaux, constitués de tissus embryonnaires en pleine croissance, sont récoltés frais et préparés sous forme de macérats hydroalcooliques glycérinés. Ils produisent des macérats plus actifs que les extraits préparés classiquement à partir de feuilles, racines et écorces, obtenus à partir de plantes adultes, et le plus souvent desséchés. Les doses conseillées en gémothérapie sont donc légères. En stimulant directement les glandes cortico-surrénales, le bourgeon frais de cassis se révèle par exemple un excellent anti-inflammatoire. Le figuier, quant à lui, qui n'est pas valorisé en phytothérapie traditionnelle, montre en gémothérapie une action élective sur l'axe cortico-diencéphalique, dont il régule le fonctionnement. Il est donc anxiolytique remarquable. Un peu d'histoire. L'usage est de présenter une discipline en évoquant d'abord son histoire. Rappelons donc que les bourgeons ont laissé les traces d'une utilisation chez les Chinois avant notre ère, ainsi que chez les Égyptiens. Les tablettes assyro-chaldéennes trouvées à Nippur remontent de plus de 3000 ans et de même que les papyrus hébert découverts à Louxor dans des circonstances mal connues. Elles sont porteuses de messages médicaux végétaux posant déjà sur les bases de la phytothérapie. Au Moyen-Âge, les bourgeons de peupliers sont utilisés pour fabriquer des onguents populaires destinés à soigner les hémorroïdes. Saint Hildegard de Bingen mentionne les bourgeons dans plusieurs formules. Puis la célèbre théorie des signatures soutenue par Paracelse est venue enrichir nos connaissances en phytothérapie. Cette thérapie repose sur la croyance que la forme, la couleur, l'allure des choses, principalement des végétaux, révélaient leurs usages et leurs fonctions. Appliquées aux plantes médicinales, elles laissent penser que certaines plantes signeraient par leur apparence l'organe dont elles soigneraient le mal. On retrouve souvent ce raisonnement en gémothérapie. Mais vers 1720, puis 1760, les propriétés du cassis sont décrites minutieusement. Plus tard, le docteur François-Joseph Cazin, auteur du traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes, un très beau livre aussi à avoir, observe que les bourgeons de tilleul est beaucoup plus actif que l'infusion des fleurs. Vers 1950, le docteur Nihan utilise des cellules fraîches embryonnaires d'origine animale, d'où l'idée de plonger l'expérience en utilisant des cellules fraîches embryonnaires d'origine végétale. En 1970, sur ces bases, le docteur Paul Henry transpose l'idée au monde végétal et étudie alors un grand nombre de bourgeons et de jeunes pousses d'arbres et d'arbustes. Plusieurs chercheurs travaillent avec lui, notamment le biochimiste J.C. Lenis, auteur d'un traité théorique et pratique du phytothérapie cyclique. Ouvrage un peu ardu mais qui relie gémothérapie, phytothérapie et biologie. C'est le docteur Max Teto, un peu plus tard, qui crée le thème de gémothérapie aujourd'hui définitivement adopté. Cette connaissance passe par plusieurs niveaux. Le premier niveau révèle de la tradition. Il consiste à observer les pratiques concernant l'utilisation de telle ou telle feuille, telle ou telle racine, à analyser les résultats obtenus. Le deuxième niveau passe par la connaissance scientifique et fait intervenir la notion de principe actif. Naît alors le concept de la structure, activité. Autrement dit, l'idée selon laquelle une structure chimique, végétale pour ce qui concerne les plantes, est corrélée à une action physiologique, déterminée. Les phénols, par exemple, sont anti-infectieux. Un troisième niveau est basé sur la connaissance intuitive, à partir de l'ensemble des propriétés déduites de la pratique et de l'observation. Les propriétés de revitalisation, de régénération et de rajeunissement d'un bourgeon peuvent être attribuées à ce troisième niveau de connaissance. Ce troisième niveau laisse à penser que ce point n'est point de connaître l'analyse et l'étude scientifique d'un végétal pour l'utiliser. Cela permet de ne pas rejeter une substance intéressante, même lorsqu'une étude scientifique n'a pas été faite, et même si l'on n'a pas de preuves scientifiques de son efficacité. On ne peut s'empêcher de faire un rapprochement avec l'homéopathie, voire avec la médecine traditionnelle chinoise, médecine pour lesquelles les expérimentations en laboratoire sont rejetées, et il ne reste que les preuves d'efficacité sur la maladie. Il en est de même concernant la valeur énergétique du bourgeon. En médecine traditionnelle chinoise, on sait que plus un corps est réduit qu'on en sait ramasser sur lui-même, plus son énergie peut être grande. À un petit yin correspond un grand yang. Nous faisons la même constatation sur les bourgeons, comme d'ailleurs sur la graine ou le grain de pollen. Comment imaginer, devant les arbres de baobab ou de séquoia, qu'elles produiront des arbres aussi gigantesques ? De ce raisonnement, nous concluons que le bourgeon est un concentré d'énergie, capable, dans des circonstances particulières, de redistribuer cette énergie pour une activité thérapeutique conséquente. C'est en Belgique que démarre vraiment la gémothérapie, avec le docteur Paul Henry. L'étude scientifique qui a permis d'asseoir cette nouvelle branche de la phytothérapie porte sur l'étude du comportement des protéines sanguines humaines. S'appuyant sur ces observations, le docteur Paul Henry pose tout d'abord l'hypothèse que le méristème, c'est-à-dire pour faire simple le bourgeon d'un arbre, contient toute l'information induisant le développement de cet arbre et ses différenciations. Pour une définition plus complète du méristème, la première expérience réalisée par le docteur Paul Henry en 1970 porte un extrait du bourgeon de bouleau pubescent. Il fait alors que le constat que ce macérat active le macrophage du foie et permet un drainage des cellules de Kupffer, celles-ci ayant stocké du carbone colloïdal, c'est-à-dire un toxique. Avançant dans sa recherche, il procède à une étude de protéines du sang du patient et observe leur réaction lorsque celui-ci reçoit certains bourgeons. La méthode employée, toujours en vigueur, est la suivante. Effectuer un prélèvement sanguin sur une personne malade, procéder à la séparation des globulines d'albumine alpha 1, alpha 2, bêta et gamma globuline. Pratiquer une isofloculation de ces protéines en phase liquide. Pour cela, il procède à un ensemble de 9 tests de floculation, ceci mesurant le potentiel réactionnel du malade. On sait par exemple que l'augmentation des alpha 1 globulines chez un individu correspond à l'état inflammatoire d'un tissu. Différents essais ayant permis d'identifier les bourgeons les plus efficaces pour faire baisser ce taux élevé d'alpha 1 globuline, voire le ramener à la normale. On en déduit que ces bourgeons sont anti-inflammatoires, ce qui confirme ultérieurement l'amélioration de l'état du malade après traitement. Les chercheurs se sont ensuite aidés d'un programme informatique permettant à partir d'un prélèvement sanguin et de tests de floculation d'établir une ordonnance en gémothérapie. Aujourd'hui, les médecins qui utilisent la gémothérapie analysent les symptômes exposés par leur malade et par coupement en déduisent le ou les bourgeons qui vont conseiller. Voilà ce qu'est la gémothérapie et les expériences qui ont été faites et son histoire. Après, vous avez des plants en fait, de plein d'arbres. Notamment l'amandier, le bouleau, le mûrier, le mélèze, voilà. Et leur rôle et comment se soigner avec ces arbres et ces arbustes. On a aussi la méthode comment faire sa préparation du messirat glycériné. C'est un peu technique, ça je vais vous l'épargner. Il y a aussi un peu de botanique, ça c'est assez intéressant sur comment est constitué un bourgeon. Il y a l'ébauche foliaire, le méristème apical, l'ébauche foliaire numéro 4. Il y en a plusieurs, des ébauches foliaires, des nœuds, des entre-nœuds. Mais ça, il y a les schémas avec, donc il faudrait que vous les ayez sous les yeux pour comprendre mieux. Donc on va partir maintenant avec des extraits. Des plantes. On va partir sur l'aubépine parce qu'il y en a partout, ça pousse comme du chien dent et ça peut être utile. L'aubépine, arythmie, tension, trouble du sommeil, hyperthyroïdie. Petit arbuste de 3 à 4 mètres, parfois simple, arbrisseau. L'aubépine est très présente dans les haies, champs et jardins. À condition de recevoir suffisamment de lumière, elle pousse aussi bien dans les bois et en bordure de forêt et aime les sols neutres, un peu humides, argileux, plutôt riches en humus. Elle attire de nombreux oiseaux, aussi bien par ses fleurs que par ses fruits. Descriptif. Isolé dans un pré, l'arbre peut atteindre une des plus grandes tailles. L'arbre peut atteindre une plus grande taille, 10 mètres, et surtout devenir imposant par l'amplitude de son feuillage. L'écorce est lisse, vert olive, à brun moyen, et recouvert d'un rhytidum parcouru de craquelures régulières. L'arbre fleurit en même temps que ses feuilles apparaissent. Elle présente 5 découpes, vert vif, sont un peu pubescents en face inférieure. Ses fleurs blanches de type 5, dont l'odeur rappelle celle de l'amande amère, donc une carpelle et produisent une petite drupe rouge à maturité à un seul noyau. Le bourgeon est petit, globuleux, blanc-jaunâtre. Son macérat a de multiples effets. Au niveau cardiaque, il agit sur le rythme cardiaque, normalise la tension, constitue un remède pour l'arythmie fonctionnelle et aux palpitations. Action antiscléreuse, anticoagulant adjuvant, tout comme le cornouiller, draineur du muscle cardiaque. Il augmente la force contractile du muscle cardiaque et soigne les séquelles d'infarctus. Sédatif cardiaque, il soulage les cœurs fatigués. Au niveau nerveux, il prévient l'angoisse, les troubles du sommeil. Il évite dyspnée non allergique, l'asthme comme la vigne. Il agit sur la sclérose pulmonaire ainsi que le noisetier. Il est intéressant comme l'hyperthyroïdie, aussi bien que sur le plan cardiaque que nerveux comme le cornouiller. Phytothérapie traditionnelle, les sommités fleuries de l'aubépine sont utilisées en extrait divers. Dans les teintures mères et les tisanes, c'est une plante anti-stress, apaisante, qui permet de recouvrer un meilleur sommeil et une bonne activité cardiaque sans hypertension ni palpitation. Donc c'est hyper intéressant d'utiliser l'aubépine. Il faut en ramasser au printemps. Déjà, de faire des tisanes, c'est pas mal. Et après, il y a le glossaire des termes botaniques, parce que des fois, on est un peu perdu sur tous les termes qui sont utilisés, qui sont à la fin. Et on a aussi, je vais finir avec ça d'ailleurs, tous des tableaux sur les différentes maladies. Là, comme on va rentrer dans l'hiver, et le système respiratoire est beaucoup sollicité, donc on va partir là-dessus. Alors, l'angine, vous pouvez utiliser du cassis pour l'inflammation et l'immunostimulation. L'aulne glutineuse, un antibiotique naturel. L'églantier aide le corps à retrouver ses forces. Il a une action bénéfique sur les défenses immunitaires, particulièrement sur la sphère ORL. L'argousier, apport vitaminique. Le bouleau verruqueux, stimulant immunitaire. Donc, il faut utiliser 10 gouttes 3 fois par jour pendant une semaine. Et c'est il faut prendre la gémothérapie. Sinon, il y a sucer des gommes de propolis, bain de bouche et gargarisme. Là, il y aura de la teinture mère de calendula pour les gargarismes. Après, vous avez l'asthme, ceux qui ont des problèmes d'asthme. Il y a l'aulne glutineux mentionné par l'asthme allergique. Le romarin pour le terrain hépatique, donc c'est un très bon draineur de foie. Le cassis, c'est un anti-inflammatoire, donc 5 gouttes de chaque le matin pour le romarin et 10 gouttes à midi pour le cassis. Le noisetier agit sur l'emphysème dès que la respiration devient difficile, a un effet certain avec les problèmes d'allergie, de bronchite chronique et d'asthme, s'associe bien à la viorne. La viorne agit sur le système allergique, mais aussi sur le système nerveux, végétatif, pulmonaire, inhibe le spasme bronchiolaire et apaise l'anxiété. Agit aussi bien sur les enfants que sur les personnes. 5 gouttes de chaque le soir. Bon voilà, je vous conseille ce très beau livre, très complet. Moi je l'attendais parce qu'il y a peu de livres sur la gémothérapie. Donc c'est hyper intéressant de comprendre son fonctionnement et de pouvoir se le procurer pour se soigner avec. Bon après, quand vous êtes très malade, vous allez comme voir le médecin, mais d'avoir des outils pour déjà être un peu autonome, c'est intéressant. Voilà, je vous conseille vivement ce très beau livre, Le guide de terre vivante de la gémothérapie, de Dr Claudine Lu. Il y a beaucoup de photos, de schémas, de dessins qui sont magnifiques. Il y a 600 remèdes pour toute la famille. C'est édition Terre Vivante. J'écrirai des soleils, émission littéraire sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents, proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel.
c'est chaque jour de ma vie, chaque jour et chaque nuit, je pense à toi pour toujours, mais ce que tu ne sais pas, mon amour, c'est chaque jour de ma vie, chaque jour et chaque nuit, je pense à toi.
Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth, no one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me?
eres libre, libre entre manantiales vive. Jazmines han llorado y yo no comprendo cómo en tus ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen.